Je vous invite maintenant à prendre votre Bible, version papier, version électronique, et de l'ouvrir dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Pour ceux qui ont regardé la diffusion de la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi en direct la semaine dernière, ou si vous avez pris le temps d'aller regarder dans la semaine donc, la vidéo, ceci dit, les vidéos du dimanche matin sont disponibles sur ma chaîne YouTube. C'est le lien qui a été envoyé, je pense que c'était hier ou avant-hier. C'est le même lien où se trouve la diffusion en direct chaque dimanche. Il y a les enregistrements des dimanches précédents. Et n'hésitez pas à aller regarder de nouveau ces vidéos. On n'est pas obligé de regarder toute la vidéo. On peut avancer, on prend en bas de la vidéo, on peut faire avancer et juste écouter juste la prédication si on veut. Donc, les prédications aussi se trouvent sur le site de l'Église, version audio, donc ebbv.fr, si jamais vous voulez écouter tout simplement l'audio. Donc, n'hésitez pas à partager ce lien, la chaîne YouTube, écouter ces prédications. Tout ça pour dire, si vous avez regardé, écouté la vidéo de la semaine dernière, ou si vous avez regardé en direct, vous vous souvenez, vous vous rendez compte peut-être que j'avais dit que effectivement, ce matin, on allait commencer une série dans l'Épître aux Romains. Et cette série, où nous allons prendre les 16 chapitres de l'Épître aux Romains, va nous prendre au moins jusqu'à la fin de l'année, peut-être un peu plus selon la rapidité avec laquelle nous pouvons faire ceci. Nous serons ce matin dans Romains chapitre 1 et je vais lire les 15 premiers versets. Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 15. Dans votre version que vous avez, comme j'ai dit, version papier, version électronique, suivez avec moi Romains chapitre 1, verset 15. Chapitre 1, verset 1 à verset 15. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors ici, nous allons passer quelques minutes à examiner, à méditer sur ce passage, mais un début de cette lettre, probablement une des plus grandes lettres de Paul, pas dans sa longueur en termes de mots et de phrases, mais notamment dans son enseignement. Paul, ici, dans cette lettre, va prendre le temps d'enseigner beaucoup de vérités concernant Dieu, concernant le salut. Et il va écrire à ses chers amis, ses bien-aimés, ses frères et sœurs en Christ, à Rome. Et en préparant ceci, je lisais ces versets, je méditais sur ce début du livre aux Romains. Et je me suis dit, c'est tellement formidable comment Dieu peut prévoir à l'avance, dans sa parole bien sûr, des choses pour nous aujourd'hui. Et vous allez, j'espère, pouvoir comprendre cela un peu mieux d'ici la fin de cette prédication. Mais lorsque nous lisons, et peut-être vous l'avez ressenti dans ces versets, lorsque nous les lisons, on se dit, mais Dieu, tu es tellement grand. Et Paul, il est pris avec la grandeur de Dieu. Alors, très brièvement, un peu d'arrière-plan sur l'épître, cette lettre aux Romains. Donc, bien sûr, écrit, et cette lettre écrite par Paul, il se nomme là dans les premiers versets. Et nous voyons qu'il avait déjà bien entamé son ministère, parce qu'il parle de vouloir plusieurs fois aller les voir. On voit qu'il écrit cette lettre avant la fin du livre des Actes, parce que la fin du livre des Actes, on a Paul qui arrive à Rome en tant que prisonnier. Donc, c'est apparemment quelque part avant cela. Il est encore en liberté lorsqu'il écrit cette lettre. Ce n'est pas comme Éphésiens, Philippiens, Colossiens, les épîtres à Timothée, où Paul est emprisonné. Non, Paul est en liberté, mais dans un sens pas totalement libre de ses mouvements, parce qu'il avait tellement voulu jusque-là aller à Rome voir ses enfants de Dieu, ses frères et sœurs, dont il avait entendu parler. Mais pour l'instant, il n'a pas pu. Et ne pouvant pas y aller physiquement, il leur écrit. Et je trouvais extraordinaire, ici, Paul, il exprime ce sentiment de ne pas pouvoir aller les voir, de ne pas pouvoir être avec eux, de s'encourager les uns les autres, de se stimuler, de se fortifier, comme il dit, car, verset 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et je m'associe en ce moment avec ce que Paul écrit ici, et je pense la plupart d'entre nous c'est pareil. On est dans le confinement, on est loin des uns des autres, on aimerait tellement pouvoir se voir physiquement. Avec la technologie que nous avons aujourd'hui, nous arrivons, pour certains d'entre nous, à nous voir par les webcams, quand c'est possible. On se téléphone, donc au moins on entend la voix de la personne, mais ça ne remplace pas le contact physique. Et Paul, ici, il exprime ce désir, il dit « je voudrais tellement aller chez vous ». Je voudrais tellement vous voir, j'entends parler de votre foi, je prie pour vous, mais je ne vous ai pas encore vu en face, et qu'est-ce que je voudrais faire ça. Et en ce moment particulier, peut-être comme jamais dans notre vie, on s'identifie à Paul. On se dit, on voudrait se voir, on voudrait avoir ce contact. Et le témoignage de Paul et ce qu'il fait ici est vraiment extraordinaire, parce qu'il va dire, verset 13, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. » Ce n'est pas comme si Paul a dit « Ah, je ne veux pas y aller, ce n'est pas très important, j'ai essayé une fois ou deux, ça n'a pas marché, alors voilà, c'est bon. » Non, j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Et il dit, à la fin de verset 13, « J'en ai été empêché jusqu'ici. » Et qu'est-ce que Paul fait? Est-ce qu'il se plaint? Est-ce qu'il s'apitoie sur lui-même en disant « Ah, qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est triste, je suis bloqué là où je suis » ou « Je suis bloqué dans les projets que moi je forme, je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire ce que j'ai prévu, alors voilà, c'est bon, je jette l'éponge. » Non, Paul ici, il dit « J'ai fait ces projets, j'ai essayé d'aller vous voir et maintenant je prie. Ben, » je prie. Et justement, au verset 9, « Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » Il savait que Dieu allait lui donner l'occasion lorsque c'était le moment, dans sa volonté. Paul avait sa propre volonté, mais il se soumettait toujours, bien sûr, à la volonté de Dieu. Donc, voilà un peu le contexte, l'arrière-plan dans lequel Paul va écrire cette merveilleuse lettre. Il n'a pas encore vu ces chrétiens en face, il avait entendu parler d'eux, il sait que ces chrétiens sont forts, donc ce n'est pas pour leur apporter quelque chose parce qu'ils étaient défaillants en quelques domaines. Non, c'était vraiment pour les encourager. Et c'est comme ça qu'il faut venir à cette lettre. Et puis, Paul, dans ces versets, vous l'avez peut-être remarqué, mais je veux le faire, je veux souligner un mot qui va revenir dans ces 15 versets et puis de nouveau au verset 16 que nous n'avons pas lu. Et c'est le mot « évangile ». Parce que si on revient au verset 1, Paul, serviteur, certaines traductions esclave, c'est le mot doulos, donc esclave de Jésus-Christ. Donc il appartient à Jésus-Christ, il a été saisi par Jésus-Christ, il est au service de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc appelé pour une mission spécifique. Nous n'avons pas la mission de l'apôtre Paul, mais nous avons d'autres missions aujourd'hui, 2020. Malgré le confinement, malgré le contexte difficile dans lequel nous sommes, nous avons une mission de la part de Dieu. Dieu nous place là où nous sommes pour un but spécifique. Il veut, bien sûr, qu'on témoigne autour de nous, qu'on fasse du bien, qu'on soit dans la prière. Et tout comme Paul peut dire « appelé à être apôtre », nous pouvons dire « moi, je suis appelé à une mission spécifique ». Pas celle d'apôtre, c'était spécifique à Paul, mais quand même appelé à quelque chose de spécifique. Et puis, Paul dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et début de verset 2, évangile. Alors, dans le grec, le mot évangile n'est pas répété ici, mais il y a une petite phrase, évangile de Dieu, laquelle, donc, on voit bien qu'il fait référence à cet évangile, donc c'est comme s'il répète ici. Donc, évangile, retenez bien ce mot. Verset 9, regardez. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Et puis, verset 14, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer, verset 15, pardon. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et verset 16, un verset je pense que nous connaissons pour la plupart, sinon tous, assez bien, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, nous n'allons pas nous intéresser au verset 16. En fait, ça, Dieu voulant, ça va être pour la semaine prochaine, parce que finalement, Paul, il va faire tout un autre raisonnement. Mais il suffit de dire que ici, 5 fois, Paul va employer le mot « évangile ». Et lorsque nous nous souvenons du sens premier de « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Et en lisant ceci, en méditant sur ces versets, je voyais que Paul, il mettait beaucoup l'accent sur la bonne nouvelle. Et verset 15 m'a vraiment interpellé. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Ici, Paul, il parle de bonnes nouvelles et il parle même de bonnes nouvelles envers des gens qui sont déjà enfants de Dieu. Et avec cette première idée de la bonne nouvelle, je me suis dit, mais comment est-ce que Paul pouvait parler de bonnes nouvelles et comment aujourd'hui, 2020, dans un contexte du confinement, dans un contexte avec tellement d'incertitudes, avec un contexte qui est tellement frustrant, où nous risquons de tomber dans la peur, où nous risquons de nous éloigner de Dieu même, de tomber dans des pièges, d'être tentés, comment aujourd'hui pouvons-nous parler de bonnes nouvelles? Peut-être il y avait une bonne nouvelle dans le passé et peut-être il y aura une bonne nouvelle à l'avenir, disent certains. Mais est-ce possible d'insister sur la bonne nouvelle aujourd'hui? Et je pense que vous comprenez très bien que la réponse à ceci est oui. Mais il faut donner des raisons. Parce que nous pouvons dire, bon, mettez en avant la bonne nouvelle et puis tout ira bien. Ce n'est pas tout à fait ça. La bonne nouvelle, elle a des bases. Et comme je disais, le verset 15, très frappant, que Paul, il dit, « Je veux quand même annoncer la bonne nouvelle à vous qui êtes à Rome. » Bien sûr, à tous les inconvertis, mais il met des enfants de Dieu là-dedans aussi. Et je trouve ça extraordinaire et très instructif. Alors, la bonne nouvelle, comment pouvons-nous parler de bonnes nouvelles aujourd'hui? Si on revient au verset 2, Paul nous donne au moins une partie de réponse. Paul savait qu'il avait été appelé, mis à part, en partie, pour annoncer la bonne nouvelle. Et il va décrire un peu cette bonne nouvelle. Alors, regardez verset 2, évangile ou bonne nouvelle qui avait été promise auparavant de la part de Dieu. Et lorsque nous lisons cela, avec la connaissance que nous avons de la Bible, un peu du plan de Dieu, du caractère de Dieu, on se dit, mais il est évident, Dieu, il avait mis en place cela depuis toute éternité, et bien sûr, c'est évident que son plan s'accomplit. Mais il faut bien insister sur ce point, parce que ça montre bien que Dieu ne laisse pas les choses au hasard. Dieu prévoit en avance. Dieu est, plus que quiconque dans l'univers, celui qui prévoit. Dieu prépare. Et Dieu savait très bien, même avant la création, Dieu savait que Adam et Ève allaient pécher. Et Dieu savait qu'il enverrait son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Et Dieu savait que Jésus-Christ mourrait sur la croix d'une mort affreuse, terrible. Il serait réellement mort, il serait 3 jours dans le tombeau, 3e jour, il ressuscite, et grâce à cela, le salut serait offert à tous ceux qui croient. Et bien plus que cela, Dieu savait qu'en 2020, le monde entier serait confronté à ce virus COVID-19, avec toutes les conséquences physiques, mentales, émotionnelles, économiques que cela implique. Dieu sait à l'avance. Et comme Paul dit ici, cette bonne nouvelle, l'évangile, le salut en Jésus-Christ, Dieu avait annoncé à l'avance. Donc non seulement Dieu sait à l'avance, mais Dieu annonce à l'avance. Nous avons entre nos mains la Bible. Et la Bible nous dévoile, nous apprend beaucoup de choses sur le passé, nous apprend des choses pour notre vie aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous annonce et nous enseigne certaines choses par rapport à l'avenir. on a tendance à ne pas être tellement émerveillé dans la joie avec le fait que la Bible, littéralement, nous annonce les choses à venir. Quand on y pense, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ça, c'est Dieu, ça. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu prépare. Dieu annonce à l'avance. Et donc, nous voyons que Dieu est le grand, est celui qui, plus que quiconque dans l'univers, prévoit. Et puis, qui avait été promis. Alors, Dieu ne fait pas des promesses à la légère. Lorsque Dieu fait des promesses, il les tient. Et lorsque Dieu dit « Je serai avec vous tous les jours », Dieu sera avec nous, qu'on soit confiné ou pas, qu'on soit dans l'incertitude ou pas, qu'on soit dans la peur ou pas, Dieu promet d'être avec nous. Alors, il est avec nous et ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Et puis, bonne nouvelle aussi promise par Dieu en avance, mais promise par Dieu par ses prophètes. Des personnes qui annoncent la parole de Dieu, l'enseignement venant de la part de Dieu. Et ici, nous voyons que Dieu, dans sa sagesse, dans sa grâce, se sert d'hommes et de femmes, aussi imparfaits et faillibles soient-ils, pour annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Nous voyons ici que Dieu, il peut, et Paul aussi, et nous aussi, nous pouvons parler de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Peu importe ce que nous disent les médias, malgré tant de morts qu'il y a en France et dans le monde, et comprenez bien, je veux que ceci soit bien compris, chaque mort est terrible. Nous devons déplorer chaque mort. Mais attention de ne pas nous laisser sombrer, de ne pas nous laisser envahir par cela, parce que aussi vrai et aussi terrible soit la mort des personnes que nous connaissons ou dont nous entendons parler, aussi vrai et aussi, on va dire, encourageant, fortifiant, est le fait que nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est puissant, il contrôle toutes choses, il prépare en avance et il est en train, en ce moment même, d'accomplir son dessein, son plan qu'il a préparé depuis toute éternité. Et avec cela, comment ne pas nous réjouir? Comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas parler de cette bonne nouvelle? Alors, à partir de verset 3, Paul va continuer parce que lorsque Dieu agit, lorsque Dieu prépare des choses et lorsqu'il les met en œuvre, Dieu n'agit pas simplement dans les grandes lignes, en disant « je pose les grandes lignes, vous, les êtres humains, occupez-vous des détails comme vous pouvez ». Non, finalement, Paul va montrer ici dans ces versets, ainsi qu'à travers toute cette lettre, que Dieu va jusque dans les tout petits détails de son plan. Il prépare tout, il ne laisse rien au hasard. Et ça comprend votre vie et la mienne. Du coup, verset 3, cette bonne nouvelle, Romains chapitre 1, verset 3, cette bonne nouvelle concerne son fils. Donc, fils de Dieu, Jésus-Christ. Paul va insister sur la divinité de Jésus dans ces versets. Né de la postérité de David, selon la chair. Donc, Jésus est réellement né. Il est né de la postérité, c'est-à-dire de la lignée des descendants de David, comme cela avait été prophétisé et que ça a été dit en avance. Et donc, Dieu le dit en avance et ça s'accomplit. Rien d'étonnant dans cela et pourtant, c'est une chose tellement grande et tellement merveilleuse. né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance. Alors déclaré, comprenez bien que cela ne veut pas dire que Jésus-Christ était fils de Dieu simplement parce qu'on l'a dit. Qu'à un moment donné, il n'était pas fils de Dieu ou il n'était pas réellement Dieu et il est devenu au moment où on l'a déclaré ou on l'a dit. Ce verset ne veut pas dire cela. Ce verset veut dire qu'il a été manifeste. On a pu voir, il était évident que Jésus était fils de Dieu avec puissance. Alors comment? Déjà lors de son baptême, mais aussi grâce à tous les miracles qu'il a fait. Des miracles que personne d'autre ne peut faire. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Donc Jésus est bien Dieu. Selon l'Esprit de sainteté, donc là, Paul probablement fait référence au baptême de Jésus, où la voix du Père s'est fait entendre, le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe, et donc, voilà, il fait référence à cela, mais également, il va lier la résurrection par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce que Paul dit ici, c'est que cette bonne nouvelle que nous avons reçue, si nous avons accepté Jésus-Christ par la foi, est basée sur la puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle n'est pas basée sur des sentiments, n'est pas basée sur des « oui dire », n'est pas basée sur autre chose que la puissance même de Dieu. Et puis, à la fin de verset 4, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cela est très important pour nous aujourd'hui, parce que cette bonne nouvelle que je prie que chacun qui écoute, qui regarde ceci, a déjà reçue, cela implique que Jésus est à la fois notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Et finalement, ça veut dire qu'il a l'autorité sur nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si on n'aime pas l'autorité. En fait, le fait que Jésus-Christ soit notre Seigneur est une bonne nouvelle, doit être une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça veut dire que c'est lui qui a le plan. Ça veut dire que moi, j'ai la possibilité de me soumettre à ce plan. Ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin d'inventer quelque chose. Moi, j'ai besoin de suivre ce Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous apprécions tellement parler de Jésus-Christ dans son rôle de sauveur, dans son rôle d'ami. Nous chantons souvent le chant « Quel ami fidèle et tendre, gloire à Dieu ». Nous parlons de Jésus-Christ comme celui qui est compatissant, comme le bon berger qui prend soin. Et tout cela est vrai et il faut insister sur ces choses. Mais Paul, en même temps, il insiste sur le fait que Jésus est notre Seigneur. Il a le droit de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Il a le droit de diriger notre vie et il le fait. La question à se poser, c'est sommes-nous à l'écoute? Sommes-nous obéissants? Sommes-nous dans la soumission? Ça, c'est une question que nous devons nous poser régulièrement. Jésus va dire à ses disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Donc, avec l'autorité, « et vous ne faites pas ce que je vous dis. » C'est incohérent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est Seigneur. Et ainsi, j'ai la possibilité de le suivre. C'est son plan qui est infiniment plus sage, infiniment plus grand, infiniment plus bienveillant que n'importe quel plan ou projet que moi je pourrais former par moi-même. Et bien que moi, j'ai mes propres projets et que Dieu me donne la possibilité de faire certaines choses et de préparer et de prévoir certaines choses, ça doit toujours être dans le cadre de la volonté de Dieu. Je dois toujours demander, comme dit Jacques, bah, si Dieu veut, nous ferons ceci ou cela. C'est bien d'avoir des projets, mais il est mauvais de éliminer Dieu de ses projets. Et donc, Paul dit, Jésus, c'est une bonne nouvelle finalement. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a réellement existé, il est Dieu. Donc, il est né, il est déclaré fils de Dieu, il est ressuscité, amen. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Et verset 5, par lui, donc par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce, cette faveur imméritée, et l'apostolat, donc c'est ce ministère que spécifiquement a reçu Paul ainsi que d'autres, mais en quelque sorte qui est étendu à nous. Alors comprenez bien, nous ne sommes pas apôtres, mais nous sommes tous appelés à faire ce que Paul dit dans ces versets, c'est-à-dire emmener à l'obéissance en son nom, emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Paul savait que cette bonne nouvelle dont il a bénéficié, c'était quelque chose aussi à partager autour de lui. Et ça, il avait reçu de la part de Dieu. Et nous aussi, si nous sommes enfants de Dieu. Et puis, verset 6, parmi lesquels vous êtes, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, verset 2 jusqu'au verset 6, c'est un peu cette explication de la bonne nouvelle. Paul a parlé au verset 1, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et là, il prend ces versets pour expliquer, OK, la bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est ça, que Dieu, il prévoit à l'avance, que Jésus-Christ est bien venu, il a vécu sa vie, il est ressuscité, gloire à Dieu. Nous l'avons reçu si nous avons accepté Christ comme notre sauveur. Il est notre Seigneur, il a l'autorité, c'est lui qui dirige. Et nous avons été appelés par Jésus-Christ. Et puis, verset 7, Paul, en fait, il reprend là où il s'est arrêté à la fin de verset 1. Donc, si vous voulez, on peut presque aller du verset 1 directement au verset 7. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Et on voit que Paul, eh ben, il revient à Dieu. À travers ces versets, vous le voyez sûrement, Paul met Dieu en avant, son projet, sa puissance aussi, tout ce qu'il prépare en toutes choses, sa grâce, le salut en Jésus-Christ, toutes ces choses. Et du coup, cette bonne nouvelle était quelque chose qui agissait puissamment, qui affectait puissamment Paul. Et c'est quelque chose qu'il souhaitait tellement partager et voir affecter la vie de ses frères et sœurs à Rome. Parce qu'il dit, dans les versets qui suivent, qu'il veut aller chez eux. Il veut les voir. Non pas pour parler de la pluie et du beau temps, non pas pour parler des jeux dans les arènes qu'il y avait à Rome ou dans d'autres villes, non pas pour raconter tous ses soucis et tous les troubles, les difficultés, les épreuves par lesquelles il est passé, bien que je pense qu'il les a racontées. Mais ce n'est pas son but. Non, Paul veut aller voir ses frères et sœurs à Rome, pour les stimuler, pour les encourager, pour leur montrer l'impact de la bonne nouvelle aujourd'hui. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Paul savait que ces chrétiens à Rome étaient déjà forts. Ce n'est pas comme s'ils étaient défaillants, qu'ils étaient faibles, qu'ils étaient en difficulté même. Non, on ne ressent rien de cela. Verset 8. Alors, c'est merveilleux ce que Paul dit ici. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Alors, j'ai lu ça, et Paul va dire des choses similaires à d'autres églises auxquelles il va écrire. Mais j'étais un peu repris, peut-être vous l'êtes aussi. Paul pouvait penser à toutes les personnes à Rome dont il avait entendu parler, les frères et sœurs en Christ, et il pouvait dire « Je remercie Dieu pour vous tous ». Et Dieu m'a repris avec cette pensée, est-ce que moi je suis capable de faire la même chose avec mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, à l'église de Vernon? En tant que pasteur, est-ce que je suis capable de remercier Dieu toujours pour chacun dans l'église? Je mentirais si je disais oui. Je ne vous cache pas que par un moment, même pour un pasteur, il est frustré. Même pour un pasteur, il est attristé par des choses qui se passent. Et pourtant, que ce soit le pasteur, que ce soit n'importe qui dans l'église, Paul ici dit, dans le contexte de la bonne nouvelle, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu pour vous tous, sans exception. Et je me suis posé quand même la question, mais comment est-ce possible? Déjà, Paul, il n'avait pas encore rencontré personnellement ces personnes. Paul ne les avait pas encore vus, n'avait pas vraiment passé du temps avec eux. Alors, comment Paul pouvait-il, ici dans ces versets, dire « Je remercie Dieu pour chacun d'entre vous ?» Il explique. « Au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alors, c'était avant Facebook, c'était avant Internet, c'était avant le téléphone, c'était avant tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Le monde entier connu, selon Paul, était au courant de la foi de ces chrétiens de Rome. Quel témoignage, n'est-ce pas? Et on se pose la question, mais comment? Et de nouveau, on revient à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui fortifie notre foi, notre confiance en Dieu? C'est la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Le salut en Jésus-Christ. Et Paul, ici, commence à dévoiler, commence à développer, commence à nous faire voir le fait que cette bonne nouvelle est quelque chose auquel nous devons réfléchir tous les jours. Cette bonne nouvelle est quelque chose avec lequel nous devons nous lever le matin en nous affirmant cela, en disant à Dieu merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour la journée que tu me donnes parce que je sais que toi, tu l'as prévu par ta puissance. Je sais que je suis sauvé si et uniquement si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. Je sais qu'aujourd'hui, je suis entre les mains de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs un peu partout, certes, peut-être dans des difficultés, mais ce sont des frères et sœurs qui ont aussi placé leur foi et confiance en Dieu, et je peux remercier Dieu pour ça. Ici, Paul dit, finalement, c'est la foi, la confiance qui vient de la bonne nouvelle. Plus tard dans ce livre, il va dire « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et cette parole de Christ, c'est quoi? C'est le salut. Et du coup, Paul est capable de remercier Dieu pour tous ses frères et sœurs à Rome. Et aujourd'hui, 2020, les enfants de Dieu que je connais là où je suis, dans mon entourage, dans ma famille, dans mon église, suis-je capable de remercier Dieu pour eux? Et on peut dire, ouais, mais Paul, il ne connaît pas les gens que moi je connais. Moi, je connais vraiment des gens difficiles. Hein. Et pourtant, Paul, il en connaissait, des gens difficiles. Mais nous pouvons remercier Dieu. Je rends grâce, dit Paul. Je remercie. Alors, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Paul, et c'est quelque chose qui revient très très souvent, il priait. La bonne nouvelle nous pousse à la prière. Si Dieu n'est pas qui il dit être, si Dieu ne contrôle pas toutes choses, si Dieu ne prépare pas toutes choses en avance, si il y a des incertitudes par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ et même notre salut ou même l'action de Dieu dans la vie des uns des autres, si il y a des doutes là-dessus, bien sûr, je ne vais pas prier. Mais Paul, il avait l'entière certitude, et il va revenir sur cette idée de certitude absolue plusieurs fois dans cette lettre. Paul avait l'entière certitude que Dieu était à l'œuvre. Et c'est ça qui lui permettait de prier sans cesse. Il dit, je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Demandant, verset 10, continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Ils étaient ensemble, dit Paul, spirituellement. Nous sommes ensemble liés par Jésus-Christ si nous sommes sauvés et notre conversation, nos pensées les uns envers les autres doivent être des pensées qui sont dirigées par cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Puis, verset 13, Paul veut enlever tout doute et peut-être même toute mauvaise pensée, tout soupçon de l'esprit des chrétiens de Rome. Il dit, je veux et je voulais aller vers vous. J'ai été empêché, mais je prie vraiment pour que je puisse enfin pouvoir y arriver. Et Paul dit, je dois le faire pour tous. Je veux vous voir, Romains, mais je dois aller aux Grecs. Donc ici, le grec, c'est, il faut prendre dans le sens les gens civilisés. Les barbares, c'est les gens aux yeux des autres non civilisés, peu importe, aux savants, donc les gens intelligents, les gens qui ont fait des études et que certains mettraient en avant, aux ignorants que certains délaisseraient, donc pas de distinction. Paul dit, la bonne nouvelle, je veux l'apporter à tous. Et verset 15, il arrive à la fin de cette partie, ainsi, j'ai un vif désir. Paul dit, j'ai tellement ce désir, ça me brûle en moi. Je n'arrête pas d'y penser, ça m'obsède presque. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et encore une fois, je reviens à ce verset et je trouve extraordinaire que Paul, en parlant à des enfants de Dieu, leur parle de bonnes nouvelles, de l'évangile. Et je termine avec cette pensée. Il me semble que le risque pour nous, surtout 2020, avec notre connaissance, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Christ comme notre sauveur, cela est merveilleux, gloire à Dieu. C'est la plus grande décision que nous ayons pu prendre. Mais le risque pour nous, c'est de penser que l'évangile, la bonne nouvelle, le salut, est uniquement quelque chose du passé. Que j'ai accepté Christ à un moment donné, et comme mon salut est assuré, je ne le perds pas, il ne peut pas changer, je suis gardé par Dieu lui-même. Que cette bonne nouvelle reste quelque chose du passé, n'agit pas dans ma vie aujourd'hui, n'a aucun impact dans mes relations avec ma famille, mes frères et sœurs, mon mari, ma femme, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes frères et sœurs en Christ. Le risque pour nous est grand que cette bonne nouvelle n'agit plus, qu'on n'y pense pas. Et Paul dit, moi, je veux venir à Rome et je veux vous annoncer, vous proclamer pour les gens sauvés ainsi que les inconvertis, bien sûr. Les inconvertis doivent entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais les gens sauvés doivent l'entendre aussi. Vous annoncez l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai le désir de parler du salut en Jésus-Christ dont j'ai bénéficié à mes frères et sœurs en Christ? Ici, dans l'église de Vernon, je loue Dieu que souvent, dans nos prières et même dans nos discussions, de la part de beaucoup, on entend parler du sacrifice de Christ, on entend des louanges à Dieu pour le grand salut en Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable. Et il faut que ça continue. Mais ça, c'est bien lorsque nous sommes ensemble. Le dimanche, même si nous ne sommes pas ensemble ce matin, mais lorsque nous nous rencontrons habituellement, physiquement, on entend ces choses. Mais qu'en est-il de notre vie dans la semaine? Si on est en famille, si on est dans un contexte difficile, si on est au magasin et les gens ils sont frustrés et les gens sont dans l'incertitude, dans la peur et les gens font des choses vraiment aberrantes. Quand on est derrière le volant, alors là, il y a quelque chose qui se passe quand on entre dans une voiture ou du moins quand on est derrière le volant. Quand on est passager, c'est un peu différent, mais quand on est derrière le volant, il y a une transformation qui se fait. Ça s'opère même en moi. Moi, je le vois. Donc, on devient différent. On est plus énervé. On est beaucoup moins patient. Bref. Est-ce que, en ces moments, je pense à la bonne nouvelle, c'est-à-dire Dieu, le salut en Jésus-Christ, et est-ce que je laisse cela me changer? Parce que si Paul, il dit, je veux venir chez vous, chrétiens de Rome, et je veux vous annoncer l'évangile, c'est pas simplement pour faire un beau discours. C'est pas simplement pour dire, bon, j'ai quelque chose sur le cœur, il faut que je le partage, il faut que ça sorte. Non, c'était que cela ait un impact sur ces chrétiens de Rome. Et aujourd'hui, si Dieu a préservé ses paroles pour nous dans Romains chapitre 1, et si Dieu a préparé à préserver tout ce livre aux Romains avec tout son enseignement, c'est parce que ça doit agir dans notre vie aujourd'hui. La bonne nouvelle est quelque chose dont nous avons besoin. Parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde, il y a tellement de mal autour de nous, surtout en ce moment, que nous devons revenir souvent et encore à cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Pas simplement pour les inconvertis, bien qu'ils doivent l'accepter et venir à Christ par la foi, mais aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Que la bonne nouvelle soit souvent sur nos lèvres, revienne souvent dans notre conversation, dans la semaine, entre nous, surtout lorsque nous avons l'occasion de parler ensemble, dans nos prières, que ça revient souvent, lorsque nous prions à Dieu qu'il nous aide, on a besoin de son aide, on est faible, on oublie, on prend de mauvaises décisions, on fait de mauvais choix, on a de mauvaises pensées, on a des sentiments qui ne sont pas selon Dieu, qui reviennent en nous. Et à ce moment-là, de quoi avons-nous besoin? C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et se le redire, de dire, Jésus-Christ est mort pour moi, il est ressuscité par la puissance de Dieu et cette même puissance est à ma disposition aujourd'hui. Que Dieu prépare toutes choses pour moi, aujourd'hui, dans les détails. Et il le fait pour chacun de nous. Donc, cette bonne nouvelle va être un thème à travers ce livre. Un autre thème que nous allons voir à travers ce livre va être le plan de Dieu, ou on peut dire les projets de Dieu à travers l'histoire, dans l'éternité passée et jusque dans l'éternité future. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et Paul va un peu répondre à cette question à travers ce livre. Donc, je vous encourage à lire le chapitre 1 dans la semaine qui vient, méditer là-dessus. On a toute la semaine avec le temps en plus que nous avons à cause du confinement. Je pense qu'on a tous un peu plus de temps à lire et méditer la parole. Donc, Romains chapitre 1, relisez, lisez tout le chapitre, méditez sur ces versets, réfléchir, demandez à Dieu de vous rappeler la bonne nouvelle en Jésus-Christ, à vivre cela dans les interactions de tous les jours, à tout moment. Et puis, Dieu voulant, on reviendra à ce passage la semaine prochaine, à partir de verset 16 cette fois-ci, et on va voir ce que Paul il va encore nous faire découvrir en ce qui concerne cette bonne nouvelle, parce que c'est tellement central. Notre vie ne doit pas être vécue sur notre propre base, mais sur la base de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui nous permet d'être en sécurité, qui nous permet d'être dans la joie aujourd'hui malgré les circonstances. Et pour nous souvenir de toutes ces choses, pour aussi les vivre concrètement chaque jour, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et cette aide, on la demande bien sûr dans la prière. Et c'est ce que nous allons faire en ce moment. Je vais prier. Pendant que je prie, si vous voulez, de votre côté, vous pouvez prier aussi pour demander l'aide de Dieu. Alors, je vais prier, prier aussi de votre côté, si vous voulez. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que tu es le grand Dieu qui nous apporte la bonne nouvelle aujourd'hui. Tu ne laisses rien au hasard, tu es tellement grand et tu nous permets aujourd'hui de bénéficier de cette bonne nouvelle et cette bonne nouvelle peut agir et elle agit dans notre vie. Seigneur, nous demandons ton aide pour pouvoir nous en souvenir. Nous demandons ton aide pour avoir les bonnes pensées, pour pouvoir agir comme toi tu veux. Seigneur, donne-nous intelligence, donne-nous sagesse, et nous savons que tu le feras, parce que tu as promis de répondre à cette prière lorsque nous la faisons. Et Seigneur, nous te remettons nos soucis, notre peur, éventuellement l'incertitude que nous avons alors que nous entamons cette nouvelle semaine. Que tu nous aides à travers cette semaine, chaque jour, à pouvoir nous souvenir de cette bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ, de tout ce que cela nous apporte aujourd'hui, que tu nous aides à être des témoins pour toi, là où tu nous places. Et ainsi, Seigneur, parce que ça viendra de toi, que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.